Ce podcast vous est présenté par Climatisation Paquette qui vous offre les produits MoveAir, la marque la plus fiable selon Protégez-vous. Climatisation Paquette, c'est la vente, l'installation, la réparation de systèmes de climatisation et de chauffage. C'est la vente de produits MoveAir, c'est des nouveautés et on offre désormais le service nettoyage de conduits de ventilation. C'est l'entretien d'aérotherme au gaz naturel fait par des techniciens certifiés. C'est ça, Climatisation Paquette.
Voici un podcast original de Boulevard 102.1. Les grands événements de Québec.
Vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Une série consacrée aux événements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec avec Denis Gravel. Fire! On revisite un moment clé avec des témoins et acteurs de première ligne afin de comprendre ce qui s'est passé et comment ces événements résonnent encore aujourd'hui.
Bienvenue dans cette série de conversations où, de façon très modeste, on voulait revenir à Boulevard sur les événements qui ont marqué la région de Québec, marqué au sens positif, au sens négatif aussi. Souvent des événements qui sont des tristes rappels que la réalité peut nous atteindre à Québec, puis que c'est pas seulement ailleurs. Dans cette série de conversations-là, on va revenir sur des événements historiques qui ont marqué la ville, la région, la province au cours des dernières décennies. On va essayer de réfléchir aussi autant que faire se peut avec les années, avec le recul sur comment on a changé, peut-être, notre façon de vivre, notre façon de réagir, notre façon de réfléchir au lendemain d'une tragédie ou encore dans les années qui suivent. Parce que veut, veut pas, quand il y a quelque chose qui arrive dans notre ville, il y a des comportements qui changent, il y a peut-être des réflexions qui débutent aussi. Il y a comme un tourbillon de choses qui arrivent quand c'est dans l'actualité. Puis après ça, la vie étant ce qu'elle est, bien, on est comme des fourmis. Hein? La vie reprend son cours, les habitudes reviennent et ainsi de suite. Puis on se demande, mon Dieu Seigneur, on a tourné le rideau, on a tourné le coin. Puis et c'est peut-être une bonne chose ultimement quand on voit que New York recommence à vivre après les événements du 11 septembre 2001. Bien, on se dit, c'est la résilience de l'humain. Puis il y a quelque chose de positif là-dedans aussi. Puis en même temps, bien, on a un devoir de mémoire et de ne pas oublier ces événements-là qui ont marqué la ville de Québec. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement controversé qui retient encore beaucoup d'attention et d'émotion alors que ça fait plus de 8 ans que c'est arrivé. On parle bien sûr de l'attentat, de la tuerie de la mosquée qui est survenue le 29 janvier 2017. Alexandre Bissonnette qui tuait 6 hommes au Centre culturel islamique de Québec dans le secteur Sainte-Foy. Évidemment, c'est un événement qui nous a marqué, qui a marqué également la ville de Québec à de multiples façons. Puis avant de jaser avec notre invité, je veux prendre le temps de refaire la chronologie de cette soirée-là. C'était un dimanche. Hein? C'est habituellement le moment où notre fin de semaine s'arrête officiellement. On est dans lunch, on est dans les devoirs, on est dans les préparations de routine du lendemain. Il y en a qui arrêtent de vivre pour regarder la TV. C'est un dimanche banal, aux premières apparences, à Québec. Et à 19h45, ben là, tout ça commence. Au moins un homme cagoulé fait irruption dans le Centre culturel islamique de Québec au 2877 chemin Sainte-Foy. Il ouvre le feu sur des fidèles réunis pour prier au rez-de-chaussée. 6 personnes périssent sous les balles et 5 sont gravement blessées. Une 60aine de personnes qui étaient dans la mosquée au moment de l'attaque. Les hommes priaient au rez-de-chaussée. Les femmes et les enfants se trouvaient à l'étage. 10 minutes plus tard, 19h55, la police de Québec arrive sur les lieux de la fusillade après avoir reçu plusieurs appels provenant du 2877 chemin Sainte-Foy. Elle constate l'ampleur du drame, découvre plusieurs victimes. Peu après, un homme est arrêté à proximité de la mosquée. La police ne peut pas confirmer si celui-ci est impliqué dans la fusillade. On se transporte vers 20h10. La police reçoit l'appel d'un autre homme qui souhaite parler de son geste. Il affirme qu'il est impliqué dans l'affaire et précise l'endroit où il a garé sa voiture, à 20 kilomètres de la mosquée, tout près du pont de l'île d'Orléans. Une demi-heure plus tard, 20h40, l'ambulance quitte les lieux de la fusillade. 21h, large périmètre de sécurité qui est établi à l'entrée du pont de l'île d'Orléans, où le deuxième homme est arrêté à bord d'un véhicule Mitsubishi gris par le groupe tactique d'intervention. Vers 23 heures, deux heures plus tard, le maire de Québec, Régis Labeaume, invite la population de Québec à s'unir et à être solidaire. Il dit, et je cite, « Mes premières pensées vont vers les victimes et leurs familles touchées alors qu'ils étaient réunis pour la prière. Québec est une ville ouverte et où tous doivent pouvoir vivre ensemble en sécurité et dans le respect. » Le lendemain, dans la nuit de dimanche à lundi, on se transporte à minuit 45. Il y a des personnes qui commencent à se rassembler devant la mosquée. Minuit 50, la GRC et la SQ dressent conjointement un premier bilan des victimes qui fait état de 6 morts et 8 blessés. Quelques 200 agents de la police de Québec et de Montréal, de la SQ, de la GRC poursuivent l'enquête. Lundi midi, la SQ confirme qu'un seul des hommes arrêtés dimanche soir est considéré comme suspect. Souvenez-vous que pendant les premières heures de cette histoire-là, on a beaucoup parlé de deux possible tireur, même une information qui avait été partagée par plusieurs médias. Vers 15 heures, l'identité du principal suspect est confirmée, Alexandre Bissonnette, 27 ans. 11 chefs d'accusation sont déposés contre lui vers 17h15, 6 pour meurtre au premier degré et 5 pour tentative de meurtre en utilisant une arme à feu à autorisation restreinte. La GRC souligne dans un point de presse que d'autres accusations en lien avec le terrorisme et la sécurité nationale pourraient s'ajouter puisque l'enquête se poursuit. Le bureau du coroner indique par ailleurs avoir identifié les 6 victimes et à 18h, le lundi, ça fait même pas 24 heures encore, des veillées aux chandelles se déroulent à Sherbrooke, à Ottawa, à Québec évidemment, à Montréal et Toronto en hommage aux victimes. La Tour Eiffel en France s'est également éteinte pour un moment de silence. Parlons-en des victimes. Les noms sont importants. Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassan, Azzedine Soufiane et Aboubakar Tapti. C'est les 6 personnes qui ont perdu la vie ce soir-là. Il est journaliste au Journal de Québec et j'imagine que pour lui aussi, c'est un dimanche bien ordinaire. Mais quand tu es journaliste dans une ville comme Québec et qu'il arrive un événement comme celui-là, j'imagine que non seulement ça chamboule ton horaire, mais ça chamboule ta vie. Puis il va nous raconter de son point de vue comment il a vécu les événements. En studio avec nous, Jeff Racine. Salut Jeff.
Salut Denis.
Ça va bien?
Ça va toi.
Ça faisait combien de temps que tu étais journaliste au Journal de Québec ce soir-là?
Ça faisait 14 ans, je pense. Moi, dans quelques mois, ça va faire 23 ans, puis je vais avoir 46 ans. Donc, c'est la moitié de ma vie.
Tabarnouche, t'as commencé quoi, en 2000,
2001?
2003.
En plein milieu de Scorpion.
Oh, OK. Faisais-tu partie de la couverture des événements dans ce temps-là?
De temps à autre. Notre okay. meilleur à l'époque, c'était Éric Thibault, qui était
oui.
encore très bon,
oui.
Qui poussait fort là-dessus.
Le dimanche
ouais.
Du 29 janvier 2017, raconte-nous quand est-ce que toi, tu as eu un appel puis que tu t'es rendu compte qu'il s'était passé quelque chose à Québec?
C'est un peu comme les tours jumelles. Hein. On se souvient où on était, qu'est-ce
ouais.
qu'on faisait. Ouais, moi, normalement, mon premier garçon devait avoir 2 ans puis je faisais toujours la navette avec la Beauce. Mais ce soir-là, j'avais décidé de rester à Cap-Rouge.
Okay.
J'avais encore un appartement à Cap-Rouge. C'est le quartier d'Alexandre Bissonnette, Cap-Rouge.
Puis de sa famille, oui.
Oui, j'ai grandi un peu au même endroit, donc c'est ça. J'étais tout seul, puis là, les courriels ont commencé à rentrer, tu sais, entre 20h et 21h, puis il se passait quelque chose, on ne savait pas quoi. Là, on a compris que c'était majeur. On n'a pas attendu de signal de patron, on est parti.
Ton premier réflexe, toi, c'est d'aller où à partir de ce moment-là?
C'est de mettre mon manteau, puis ben là, je le sais pas sur le coup. Je pars, mais là, je pars.
Je m'en vais où, là?
Je suis à Cap-Rouge, je vais où? C'est mm-hmm. ça l'affaire, on peut pas tous aller à la mosquée, là, si
ouais.
tout le monde sort. Moi, je suis allé dans les hôpitaux.
OK.
Puis je suis allé au centre un peu de coordination, un petit peu qui était à l'aréna de Sainte-Foy, là, je pense, où les enquêteurs commençaient à ramasser tout ce qu'ils pouvaient.
Ouais.
C'était un genre de quartier général. Les hôpitaux, tu comprendras qu'on n'a pas eu trop accès. Il y avait déjà de la sécurité, mais mm-hmm. on voyait que c'était le branle-bas de combat, c'était difficile. Mais on a pu comprendre que c'était pas une simulation. Là.
À partir de quel moment tu as été conscient de ce qui se passait puis que tu as réalisé, OK, là, c'est comme dans... le côté sombre des grandes villes. Il y a quelqu'un qui est rentré à quelque part puis qui s'est mis à tirer sur tout ce qui bougeait.
Ben moi, d'abord, j'ai un respect pour les services d'urgence. Là. Moi, je suis juste un journaliste.
Mm-hmm.
Je suis pas les médias puis je suis pas rentré là.
Hein. Ouais.
Je suis pas policier, je suis pas ambulancier. Il y a un répartiteur 911 qui a eu Alexandre Bissonnette en ligne aussi.
Mm-hmm.
Moi, je pas, j'ai rien vu. J'ai pas été confronté à l'horreur. Moi, c'était le choc, l'émotion, la ville, l'image de la ville. Ça peut se passer chez nous. On le savait depuis Denis Lortie, mais on réalisait que là, il y avait un tireur actif qui avait abattu plusieurs personnes. On savait pas combien. C'était pas vraiment pas une simulation. Les aéroports font des simulations, les services d'urgence aussi. Là, c'était bien vrai. Là.
Parce que même si c'est déjà arrivé, j'ai l'impression que pour notre génération, ça a été comme une espèce de réveil de dire des crimes comme ceux-là. On a toujours l'impression ou la prétention à Québec qu'on reste dans une ville qui est un peu plus à l'abri des autres. Tu sais, une ville plus tranquille, une ville, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui en 2025, mais à l'époque, on regardait des choses qui arrivaient à Paris, on regardait des choses qui arrivaient aux États-Unis, puis... on se disait, ben à Québec, des affaires de même, ça peut pas arriver. Ça, ça nous a... Tu sais, pas en tant que personne qui parle d'un média ou qui écrivent dans le journal, mais j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, ça nous a fessé solide de voir que, oui, ça peut arriver partout, incluant Québec. T'sais.
Ben Denis Lortie, c'était loin. Hein. Ça faisait super longtemps. Moi, étant fan de radio avec Arthur, j'en ai entendu parler beaucoup, beaucoup.
Évidemment.
Mais c'était très loin. Puis cette fusillade-là aussi aurait pu être encore pire à l'Assemblée nationale. Mais là, on était plongé au cœur de ce... Mais en fait, on ne savait pas exactement ce que c'était au début. On l'a dit dans les premières heures que ça risquait d'être justement un attentat qui était visé. Là. Mais au début, on ne le savait pas. Puis je te dirais que c'est important qu'on en parle aussi parce que moi, je donne des cours, des ateliers au secondaire, puis je l'ai remarqué récemment quand je parle de la mosquée. Là. Mm-hmm. Ils savent pas c'est quoi. Il y en a qui le savent pas.
C'est déjà quelque chose qui fait partie du passé, puis c'est pas le passé du monde. Puis même les gens qui l'ont vécu, on dirait qu'on aime mieux se faire croire dans une certaine mesure que c'est pas arrivé ou de passer à autre chose. Alors que, hey, mon Dieu, moi, je me souviens le tourbillon d'émotions qui m'habitait, tu sais, parce qu'on a toujours le même réflexe, hein, puis je ne sais pas qu'est-ce que vous avez décidé de faire dans les heures qui ont suivi, mais les questions qui arrivent rapidement, le plus rapidement, c'est pourquoi, tu sais. Pourquoi une personne ou deux personnes ont ouvert le feu, puis on veut connaître qu'est-ce qui a amené, parce que là, à un moment donné, on se rend compte que c'est un jeune, tu sais. Qu'est-ce qui a amené un jeune de Québec qui a grandi à Québec, qui a mangé nos céréales, notre pain, notre beurre, à rentrer dans une mosquée et à faire un carnage?
Puis tu sais, encore aujourd'hui, là, heureusement, on a nommé les victimes, mais je pense que les gens se souviennent plus du nom du tueur.
Oui.
Du nom des... Mais il y a une notion culturelle, là. C'est des noms qui sont moins familiers pour nous, mais encore, tu sais, je les ai entendus puis entendus à chaque année. Moi, c'est probablement moi qui est allé à toutes les commémorations comme journaliste, puis j'ai de la misère à te les nommer, les six, puis ça, c'est pas normal.
C'est triste, hein?
Oui, c'est triste.
Puis c'est peut-être un réflexe qu'on a à apprendre dans ce genre d'événement-là, parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui recherchent un peu la gloire là-dedans, parce que leur esprit fonctionne de façon un peu désorganisée, un peu dérangée, puis j'ai l'impression qu'on leur donne un point quand on commence à nommer, puis renommer sans cesse le nom de la personne qui a causé la mort de plusieurs autres personnes,
t'sais. Il y a une question éthique qu'on n'a pas la réponse. C'est la même chose à Amkoui, le gars qui est monté sur les trottoirs avec son véhicule. Moi, je sais son nom. Mm-hmm. Victime, je les sais pas. Ça devrait pas, ça.
Ben Jeff, écoute, ça fait plusieurs années que tu es dans le milieu des journalistes. Il y a des lois non écrites qui existent. T'sais, les histoires de suicide, on n'en parle plus. Dans une certaine mesure, on s'entend, là, je veux dire, quand c'est pas quelqu'un de connu, quand c'est pas arrivé dans un endroit public ou whatever, est-ce que ça pourrait devenir une loi non écrite à un moment donné de dire, quand on se rend compte que le gars voulait voir son nom dans le journal, ben là, on le nommera plus, puis en même temps, c'est parce que tout le monde va le savoir pareil, d'une façon ou d'une autre. Là.
Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Puis les réseaux sociaux, les gens sont capables d'aller chercher l'information qu'ils n'ont pas. Moi, je préfère suivre des règles, suivre un code. Mais tu sais, c'est ça, les suicides. Il y a un gars qui s'était lancé dans l'atrium de Place de la Cité, maintenant.
Oui.
Ben, ça, pas le choix d'en parler, il y a tellement de monde.
Exact.
C'est comme ça que ça marche un peu.
C'est.
Récemment, il y a quelqu'un qui est décédé, un jeune, un mineur, pas loin, je pense, de Charny. On n'en a pas parlé. On le sait, mais on n'en a pas parlé.
Ouais.
Puis
en même temps, c'est comme deux affaires qui clashent, tu sais, le droit et le besoin d'avoir de l'information quand ça se passe dans ta ville, puis l'espèce de peur que ça crée justement des événements, puis des conséquences, puis ainsi de suite. Dans une salle de nouvelles comme celle du Journal de Québec, comment on organise ça quand ça arrive le 29 janvier 2017? Est-ce que vous vous parliez entre vous autres? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un a coordonné les efforts? Parce que j'imagine que il arrive une tuerie à Sainte-Foy. Là, c'est la salle de nouvelles au complet qui est là-dessus. Là.
Écoute, qui était là ce soir-là? J'ai une petite idée, mais je le dirai pas pour pas me tromper parce que j'aurais peut-être un boss qui serait pas content, là, mais... Oui, il y a quelqu'un qui a fait le dispatch, il y a quelqu'un qui a enligné tout le monde, puis on n'a pas le choix parce que là, il faut travailler en équipe. On mm-hmm. est dans l'urgence, puis on est concurrencé avec les réseaux sociaux, il faut aller vite.
Oui.
Puis oui, il a fallu que des gens aillent à la mosquée, des gens aillent voir le premier ministre, des gens aillent voir un peu tout ce qu'il y avait à faire. Puis on est encore nombreux, heureusement. On est moins qu'avant, mais
ouais.
on a fait ce qu'il y avait à faire, puis il y a quelqu'un qui s'est occupé de nous dispatcher parce que sinon, là, c'était... On peut pas tous aller à mosquée.
Oui. Fait que toi, il y a eu les hôpitaux, oui. d'une part. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé?
Après ça, je suis allé justement où ils ont établi le quartier général, je pense, mm-hmm. à l'aréna de Sainte-Foy. Tout allait là, là, je pense, les pièces à conviction ou des témoins ou quoi que ce soit. Il y avait beaucoup, beaucoup de va-et-vient. Il y avait de la photo à faire là. Il y avait des armes longues. Il y avait beaucoup de protection. Fait que ça se passait là aussi un peu. Des autobus du RTC. Donc, ça bougeait beaucoup là. Je me souviens aussi que j'ai fini, je pense, mon avant-midi, parce que en étant sorti vers 9h, moi, je suis pas rentré chez moi avant 9h le lendemain matin. On a passé la nuit au complet, puis tu n'avais pas le goût d'aller te coucher non plus. Mm-hmm. On vivait quelque chose de particulier.
C'est stupide dans les circonstances, mais quand tu es journaliste ou que tu travailles dans un média, puis qu'il arrive une tragédie, non seulement tu veux être là, mais tu as l'impression de servir à quelque chose.
Oui, puis si tu veux pas y aller, tu n'es pas dans le bon métier, mm-hmm. ça c'est sûr. T'sais, on souhaite pas ces horreurs-là, je le dis tout le temps quand j'enseigne, mais tu veux pas que ça arrive, mais quand ça arrive, qu'est-ce que tu
faut
veux
que
faire
tu sois là, c'est ta job.
C'est ça.
Ouais.
Puis des horreurs, moi j'en ai vu bien pire à Haïti, puis en Afghanistan, puis au Rwanda, mais ce soir-là, c'était l'émotion de voir Québec qui est frappé.
Mm-hmm.
C'était ça. Puis j'ai fini ma nuit le matin, parce qu'on avait des doutes sur l'identité de celui qui avait fait ça, en passant dans la rue où il avait grandi.
OK.
Avant d'aller dormir un petit peu.
Ouais. J'imagine que humainement, tu faisais comme tout le monde. Tu poses des questions à sa famille.
Ouais.
Tu te poses des questions sur qu'est-ce qui les a menés. Est-ce que tu as eu à converser avec ces gens-là dans les jours suivants le drame?
Non, pas moi. Non. Il y en a qui les ont vus souvent au palais de justice. Moi, c'est pas arrivé. Mais tu sais, de savoir que c'était mon quartier, mon petit coin, Cap Rouge. Moi, je suis né, j'ai été élevé là, j'étais allé à l'école là. Je connais toutes les rues presque, tu sais, c'est chez nous. Là.
Il y a quelque chose qui est arrivé très rapidement dans la discussion publique à la grandeur de la province de Québec, c'est sûrement à cause des médias. Moi, je travaille dans les médias, c'est sûr qu'une accusation comme ça, moi, ça me vire de bord, puis ça voulait pas dire qu'on faisait de la radio gentille et brillante à tous les jours, au contraire, mais tabarnouche, moi, ça venait me chercher, là, de sous-entendre que t'es... je dirais pas complice d'un meurtre, mais que tu as pu inciter des gestes comme ça. Moi, ça dépassait mon entendement. Ça me rendait foudrage. Puis ça me rendait encore plus frustré de voir qu'il y a des gens qui, très rapidement, pas nécessairement dans la région de Québec, mais ailleurs, qui ont adhéré à cette théorie-là. Ah oui, c'est sûrement à cause des radios de Québec, entre autres.
Bon, c'est un peu loufoque. Moi, j'ai jamais acheté ça. Là. Comme j'ai dit, je suis un fan de radio, mais uh-huh. tu sais, je suis contre la censure. J'aime mieux choisir ce que j'écoute puis ce que j'écoute pas. Mais non, c'est un petit peu farfelu. Là. Surtout qu'avec tout ce qu'on a appris sur le tueur après ça.
Mm-hmm.
Tu sais, par exemple, à un moment donné, on a su qu'il avait fait du repérage à Laurier-Québec, à Place
oui.
Laurier.
Oui. Bon,
mais ça t'enlève un peu peut-être la cible précise sur la mosquée. T'sais. S'il est allé voir dans une place at large, même, comme mm-hmm. un centre commercial, parce qu'il n'y avait pas une idée fixe tant que ça. Mais là, je dis un peu n'importe quoi, mais il y a des choses qu'on a apprises après ça, c'est important.
Il y a même un juge, si je me souviens bien, qui s'est senti obligé d'adresser la situation puis de dire, ben moi, avec la preuve que j'ai sous les yeux présentement, il n'y a pas de médias qui sont en cause. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans cette histoire-là. C'est de voir avec quelle rapidité on a été en mesure. Parce que les premières heures, il y a eu de la confusion.
Oui.
Parce qu'on a parlé de deux tireurs. Ça a même été écrit dans le journal,
Jeff. Tu l'as sous les yeux.
Oui.
Tu peux le lire si tu veux. Écoute, c'est important aussi de dire que nous, le texte principal, c'était peut-être symbolique, c'est pas moi qui avais décidé, mais le texte a été fait par mon collègue Taïeb Moala. Taïeb est né en Tunisie, d'origine arabe. C'était probablement le plus émotif de la gang cette nuit-là. Il y a des gens qui connaissaient là-dedans. Donc, nous, que ce soit lui qui signe le texte principal, je pense que ça allait de soi.
Ouais.
J'ai aucune idée qu'il l'avait décidé, mais moi, je suis quand même fier qu'on ait laissé ça à Taïeb.
T'es-tu proche de Taïeb?
Ben, proche. Je veux dire, ça fait au-dessus de 20 ans que je travaille avec. Autant qu'un collègue peut l'être pendant 20 ans.
Parce que moi, c'est peut-être la faiblesse que j'aurais si j'étais journaliste, de couvrir quelque chose qui me touche de très, très près. Des fois, je fais des cauchemars où j'annonce un accident, puis en lisant les noms, je me rends compte que c'est des gens de ma famille ou n'importe quoi. Ça doit être particulièrement difficile de faire ta job dans un contexte comme celui-là.
Je pense qu'on se met des bonnes barrières. Moi, je suis sensible quand je l'écris après, pas quand je le vis. Tu sais, je vais donner un exemple. À Haïti, j'ai vu une école, il y avait 300 enfants morts.
Ah, mon Dieu,
ça... Ben, ouais, c'est ça. Mais sur le coup, moi, je ne me souviens pas de ce que j'ai vu ou pas vu. Mais quand je l'ai écrit après, puis je l'ai décrit, ouf, là, j'étais shaké. Alors, je parlerai pas pour lui, mais peut-être que c'est un peu la même chose. Là, dans l'urgence, tu fais ton travail, ça peut être difficile, mais c'est peut-être quand tu te retrouves tout seul un peu après, puis tu écris ton texte. Moi, ça fait 12 000 textes que je fais, je n'ai fait que de la presse écrite, là, on se parle, là, mais je suis meilleur à l'écrit qu'oral. La TV non plus, là, moi, des gars comme Félix Séguin qui font one shot, one take, là, puis ils sont capables, là, moi, c'est pas mon cas.
Ça prend un certain talent.
Mais je suis heureux que ça soit lui qui l'ait fait, c'est sûr qu'émotivement, il était plus impliqué.
Puis dans le premier texte de l'édition du lundi 30 janvier 2017, c'est bel et bien écrit « Il y aurait 6 morts ». 8 blessés, et les 2 tireurs ont été arrêtés et sont détenus par la police. Puis quand tu regardes la chronologie, finalement, tu avais un témoin important qu'on a peut-être pris pour un tireur possible dans l'excitation, puis l'énervement et le stress des premières heures. Puis à un moment donné, ça s'est précisé davantage. Mais je me souvenais qu'on avait beaucoup parlé de 2 tireurs, mais je me souvenais pas que ça s'était rendu dans le journal.
Bien, c'est des pages qui ont été fermées certainement avant minuit ou autour de minuit. Fait que probablement qu'il est rendu à cette heure-là, on n'était pas encore convaincu qu'il n'y en avait qu'un seul.
Le premier ministre Philippe Couillard, je suis en train de lire un extrait du texte de Taïeb Moala. Le premier ministre Philippe Couillard a confirmé que l'événement était considéré acte terroriste et indiqué que le drapeau sera mis en berne à l'Assemblée nationale. Évidemment, tout le monde réagissait de la même façon en disant que jamais on aurait pu penser que quelque chose comme ça puisse survenir à Québec. Ça a été quoi le travail des journalistes dans les jours suivant l'attentat?
Ben, moi, ce qui m'a marqué, c'est ce que Régis Labeaume avait dit. Là, on a tous eu nos accrochages avec lui.
Régis étant Régis.
C'est ça. Cette nuit-là, je me suis toujours demandé si ses premières phrases, c'est lui qui les avait écrites. Maintenant, on sait qu'il écrit très bien, pour vrai, dans la presse. C'est probablement lui qui les avait écrites, mais je ne le sais pas. T'sais. Il disait « Québec est une ville ouverte », puis tu l'as lu tantôt, « est une ville ouverte où tous doivent pouvoir vivre ensemble en sécurité et dans le respect ». Ben, le vivre ensemble, il a commencé là.
Et...
Un peu.
T'ouvres une porte sur le vivre ensemble. Moi, je vois plus ces choses-là de la même façon. Tu sais, quand on parle de racisme systémique puis ces choses-là, il y a peut-être une chose, moi, que je retiens de l'histoire de la mosquée, c'est que c'est en écoutant les gens qui sont victimes que tu vas comprendre ce qui se passe, puis t'es pas placé pour avoir du jugement là-dessus. Tu sais, moi, quelqu'un de couleur qui me dit « du racisme, il y en a », il y a son point de vue. Je peux pas l'avoir, moi. Je suis un blanc privilégié qui est né à Québec. Je peux me faire l'illusion ou je peux me convaincre que du racisme, il n'y en a pas. Mais moi, quand j'ai écouté les gens qui allaient à la mosquée puis qui ont perdu des proches, j'ai réalisé qu'eux autres se sentaient pas bien tout le temps dans leur quotidien puis dans leur contact. Puis ils en ont profité pour mettre ça sur la place publique. Mais peut-être que, tu sais, tu parlais du vivre ensemble. Moi, ça m'a ouvert les yeux, dans une certaine mesure, puis ça m'a forcé à une réflexion que j'aurais pas eue autrement.
Ben, on juge bien trop vite. Ça,
ben
c'est
oui.
Sûr. Écoute, moi, quand Taïeb me parle justement de la guerre Israël-Palestine, je l'écoute, puis je dis rien. Non, mais il peut me parler de ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et nous, ici, bon, c'est peut-être un peu l'impact des réseaux sociaux, mais on réagit sur tout, puis dans le fond, on connaît pas grand-chose.
Exact.
Ce vivre ensemble-là, il a commencé ce soir-là, puis je pense qu'il nous a tous aidés à avancer un peu. Moi, mon ouverture, ma tolérance, il y a eu des gros changements. Mm-hmm. La peur de l'autre, on l'avait un peu. T'sais, nous, ici, une mosquée, là, on connaît pas ça.
Non, puis, tu sais, les gens qui ont vu se changer certains, se transformer certains quartiers, puis là, on parle de Sainte-Foy, ouais. Tu sais, dans ce secteur-là, moi, quand je suis arrivé, c'était blanc, 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 puis t'avais pas, tu sais, l'épicerie que t'avais, c'était un Provigo, là, je veux dire. Tu sais, il y a des gens qui réagissent au changement avec une certaine crainte, puis cette crainte-là, ben les gens qui arrivent, puis qui veulent prendre leur place, ce qui est tout à fait normal, ben eux autres la ressentent. Puis quand tu viens d'un milieu où tu as été opprimé d'une façon ou d'une autre, puis que tu arrives, ben t'as cet aspect-là des choses. C'est ton bagage à toi. Moi, je peux pas présumer de ton bagage. Mais on l'a beaucoup fait, ça. Ah oui, au Québec, on est tolérant. Au Québec, on n'est pas raciste. Au Québec, on est ouvert. Au Québec, on n'a pas de problème avec rien. On parlait peut-être un petit peu vite.
Des fois, on regardait du coin de l'œil avec beaucoup de méfiance. Ouais. Ma perception a changé beaucoup. On a beaucoup côtoyé M. Labidi, oui. Ben Abdallah. Oui. C'est des gens extraordinaires. Puis on s'est amélioré au fil du temps à les écouter.
Des gens qu'on a beaucoup entendus sur la place publique suite à ça.
Puis ça vaut la peine. Moi, je fais des tournées des écoles pour. Je donne différentes formations. Mais ça vaut la peine d'aller au Collège des Compagnons puis à Rochebelle maintenant. Regardez.
Oui, ça a changé.
Ah oui, ça a changé. Mm-hmm. Moi, je viens du séminaire Saint-François, mais le Collège des Compagnons, c'était l'autre gang.
Oui,
ouais. La gang du public. Mais c'est plus la même chose, là. La proportion d'immigrants qu'il y a là. Hey, on est surpris. Là.
Jeff Racine, tu as couvert les commémorations au fil des années. C'est quoi que tu retiens de ces soirées-là? Qui se présentait là?
Ouf, il y a de l'émotion dans ces soirées-là. Ils sont toujours, ils ont de la difficulté à parler, c'est silencieux, c'est toujours lourd, c'est sûr. Écoute, je me souviens, encore une fois, c'est désolant parce que je me souviens pas de son nom, mais on a celui qui est lourdement handicapé, qui a survécu aussi.
Ouais.
C'est dommage, j'ai pas son nom, mais on l'a vu souvent, lui. Non, c'est des soirées qui sont difficiles au fil des ans. Évidemment, les premiers ministres ne viennent plus tout le temps, mm-hmm. mais on les a vus aussi beaucoup. Mais c'est de les écouter. Moi, c'est ce qu'on fait dans notre métier. C'est pas des entrevues bien, bien longues où tu poses beaucoup de questions. Là. Ça leur fait du bien, je pense. On les écoute, puis c'est comme ça que ça se passe. Là.
Est-ce qu'il y a des gens du secteur ou des gens de Québec qui sont pas de la même religion, qui connaissaient pas personnellement les victimes, qui se pointent aux commémorations où ils étaient là un an après, puis après ça, ça a commencé à se disperser?
C'est souvent les mêmes personnes. Il y a des familles, il y a des gens de d'autres religions. Je n'ai jamais accroché sur ce détail-là. Mais tu sais, c'est des gens qui sont encore secoués. C'est comme si c'était hier. Là.
Mm-hmm.
Tu sais, il n'y a plus de. Je dirais qu'il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Là. Tu sais, il y a juste des gens de Québec. Là.
Y a-t-il des choses qui ont changé à Québec depuis l'événement au niveau de la sécurité, au niveau de la façon de réagir? Est-ce que visuellement ou ailleurs, il y a des choses qui ont changé concrètement suite à la tragédie de la mosquée?
Bien, sûrement la perception des gens. S'il y a des trucs qui ont changé, peut-être au niveau de la sécurité, je serais mal placé pour t'en parler, mais les policiers, comme je t'ai dit ce soir-là, puis tout le monde a vécu un événement qui n'était pas une simulation. Donc là, ils se sont ajustés. Probablement que les protocoles ont été revus, beaucoup. Mais si des choses ont pu changer, je pense que c'est la perception des gens vis-à-vis l'autre. Puis là-dessus, comme je t'ai dit, je me suis accroché quelques fois avec Régis, mais je pense qu'il y avait la bonne ligne de presse ce soir-là. Puis il l'a martelé pendant des années et des années. T'sais, le vivre ensemble, là, je pense que... Évidemment, je peux dire, pour en avoir lu, que mon collègue Taïeb reçoit encore des courriels qui n'ont pas d'allure. Là,
t'es-tu sérieux?
Oui, ben, comme nous, mais avec la connotation. T'sais. Moi... Maintenant, dans la pandémie, on recevait n'importe quoi. Mais mm-hmm. maintenant, c'est juste sur des sujets controversés. La mosquée en est un. Lui, ben, c'est à cause de ses origines un peu, des fois.
Ah, ouais.
Oh, il y en a. Ça, c'est les poubelles des réseaux sociaux. Il y en a. C'est comme ça. On faut faire avec. On n'a pas le choix.
Ben, puis en même temps, je me souviens de commentaires qui ont circulé à un moment donné, peut-être dans l'année qui a suivi la tragédie, où il y en a qui disaient, ben là, tabarnouche, ils vont instrumentaliser cette tragédie-là pour faire avancer leur religion, pour faire avancer leur cause, pour faire avancer leur point de vue politique ou religieux, whatever, puis ça fait partie... Bon, c'était pas complotiste, mais c'était complotiste avant d'être complotiste, là, c'était avant la pandémie puis tout ça, mais tu sais, il n'y avait pas juste sur les réseaux sociaux là, qu'on avait vent de ces conversations-là. Nous autres, à la radio, une fois de temps en temps, on recevait des gens, des courriels de gens très sérieux ou des téléphones de gens très sérieux qui étaient convaincus qu'on essayait d'instrumentaliser la tragédie, là, tu sais. Des gens qui ont perdu des proches.
Ben, mais c'est ça, mais tu demandais aussi s'il y a des choses sur lesquelles je pense que j'ai peut-être changé.
Mm-hmm.
Mais, si mon fils avait une éducatrice, par exemple, avec un voile sur les cheveux, je dis pas à visage couvert, là, mais qu'est-ce que ça fait? T'sais, ça fait quoi, ça?
Ben, tu sais, veux pas, on s'est tous demandé comme parents, t'agis comment, puis qu'est-ce qui peut... c'est le cauchemar de tous les parents, là. Ce qui est arrivé... ton fils est un tueur, ton fils est un tireur fou, puis il a causé la mort de 6 personnes. Le père a écrit un livre, l'as-tu lu?
Non, on en a parlé un peu tantôt, mais non, je sentais pas le besoin du tout, du tout. Je pense que mon idée est faite. J'ai beaucoup d'empathie pour eux autres. Là. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Je pense que quand t'es parent, tu t'imagines à leur place. Mais j'ai pas senti le besoin de lire le livre. Toi, tu me disais que dans les premières pages, tu avais appris des choses.
Bien, il y avait un aspect, moi, qui m'intéressait, c'est comment ils ont vécu les 24 premières heures. Puis c'était le bout où j'avais vraiment une curiosité. Puis c'est une curiosité de parent. Comment un parent réalise « Tabarnache, c'est mon fils ». Comment on lui apprend ça, comment il réalise ça, les policiers, puis tout ça, comment ils sont arrivés. Moi j'avais beaucoup de questionnements par rapport à ça. Le reste du livre, ben là, ça devient un peu une espèce de, pas de justification, mais de dire « mon enfant s'est beaucoup fait intimider, puis c'est pour ça qu'il a viré comme il a viré ». Je trouve ça facile, puis en même temps, je comprends le désespoir d'un parent qui essaye de justifier l'injustifiable. Puis en tant que parent dans la région de Québec, je pense que ça a forcé des conversations avec nos enfants aussi. Tu sais, tu parlais du vivre ensemble tantôt. On a comme, tu sais, des conversations qu'on n'était pas obligé d'avoir ou qu'on sentait qu'on n'était pas obligé d'avoir. Bien là, bang, du jour au lendemain, là, t'es plongé dedans, puis ça permet d'avoir des conversations et sur le racisme et sur la tolérance, et c'est un paquet d'affaires. Tu sais, tu parlais de la prof qui a un voile ou whatever, tu sais, il y en a qui...
Non, mais peut-être qu'avant, ouais, tu sais, ça nous aurait dérangé. Moi, ça me dérange plus. Là.
Hey, moi, déchirer ma chemise pour ça à cette heure-là, oublie ça. Là.
C'est ça. Ouais. Je voudrais pas qu'une éducatrice enseigne à mes enfants le visage couvert, mais si elle a un voile sur ses cheveux, là, regarde... C'est bonne.
Sais-tu l'événement que tu as eu le plus de difficultés à suivre au niveau émotion parce que ça se passait à Québec dans ta carrière de journaliste ou
À Québec, oui. Moi, j'ai pas. On parle pas du tout de la même chose. J'ai pas connu tant que ça le sommet des Amériques. J'étais pas journaliste, j'étais étudiant.
Mm-hmm.
Mais on ne parle pas d'un attentat, là. C'est pas la même chose. Émotivement, Lac-Mégantic était bien pire que ça. On a passé beaucoup de temps à Lac-Mégantic. Là.
Le centre-ville qui a été ravagé là, par...
Le niveau d'émotion qu'il y avait là est encore plus élevé, à mon sens. Là. Il y en a peut-être qui ont vécu ça différemment, mais non, ça, Lac-Mégantic, c'était terrible, puis c'était pas un attentat non plus.
Mm-hmm.
Fait que,
C'était à la fois un accident et une tragédie.
Et la mosquée, on a démarré notre conversation, tu parlais de devoir de mémoire, c'est vraiment ça. Hein, à la mosquée, ils ont laissé un seul trou de balle dans les murs.
Puis c'est voulu.
Oui. Alors ça, c'est quelque chose.
Donc, on a décidé sciemment de dire « faut s'en rappeler », puis on va garder un trou de balle qui est là. Mes enfants, pendant quelques années, sont allés à la garderie qui était en face de la mosquée. Évidemment, ça amène des questions. Puis même quand ça arrive dans ta ville, tu sais, nous autres, on fait de la radio. Plus souvent qu'autrement, dans la radio, on est dans l'aquarium, on est en studio. Avant d'avoir des enfants qui allaient là à tous les jours, moi, je n'étais pas allé à la mosquée, tu sais. On fait de la radio dans notre studio, on anime nos émissions, puis ainsi de suite.
Tu la regardais comment?
Ben écoute, c'est niaiseux parce que c'est un bâtiment, je veux dire, d'une banalité. Je suis passé en avant 40 fois, peut-être, puis tu ne réalises pas qu'il y a une mosquée là, si tu n'as pas de focus là-dessus ou n'importe quoi. Je veux dire, tu passes à côté puis tu t'en rends pas compte. Même après la tragédie, il y a un paquet de gens qui sont allés dans ce coin-là puis qui n'ont pas réalisé que c'était là que ça s'était passé. Après, c'est sûr que t'as une fascination, t'as une curiosité, puis je te cacherai pas que je suis allé faire une couple de pèlerinage autour. C'est un événement qui nous a tellement marqué que je profitais du fait que je laissais mes enfants là à garderie, puis là, je traversais la rue de l'autre bord juste pour aller voir un peu, puis ainsi de suite. Puis je me disais, tu sais, je vais croiser quelqu'un, je vais lui dire pourquoi je suis là. C'est pas arrivé finalement, mais je me disais, bon, ben c'est peut-être ma première conversation du vivre ensemble qui s'en vient.
Il y avait beaucoup de méconnaissance.
Oui.
Mais toi puis moi, on est assez jeunes pour vivre dans quelques années probablement un débat sur la libération du tueur.
Il a été condamné, lui, à 25 ans.
Oui, ça fait... la date qu'on a actuellement, c'est en 42. Donc ça nous met dans 17 ans à peu près.
Oui.
C'est pas si loin que ça, là.
Ça va être sa première demande de libération conditionnelle en 2042. Il va être âgé de 52 ans.
Mais le mot-clé, ce que tu viens de dire, c'est la première.
Ouais.
Il va en avoir combien? Là, ça, on ne sait pas, mais ça sera probablement pas la première, mais on va peut-être voir sa libération à un moment donné.
Pour l'aspect judiciaire d'Alexandre Bissonnette, c'est peut-être important de vous dire qu'en novembre 2020, le plus haut tribunal de la province déclare inconstitutionnelle la disposition du code criminel selon laquelle il est possible d'additionner les peines en cas de meurtre multiple. Faut s'en rappeler parce que au départ, on voulait cumuler les peines. Je pourrais vous dire personnellement que ça ne m'aurait pas dérangé pantoute qu'on le fasse. Là. Je pense que c'était un cas évident pour ça. En février 2019, le juge François Huot, qui avait imposé 40 ans de détention minimalement à Alexandre Bissonnette, la Cour d'appel a révisé la décision du juge Huot, écrit d'entrée de jeu que son jugement ne porte pas sur l'horreur des gestes posés par Alexandre Bissonnette. Son travail a consisté à analyser un article précis du Code criminel 745.51 qui permet d'additionner les peines des auteurs de plusieurs meurtres. Les trois juges de la Cour d'appel considèrent que cette disposition est absurde, odieuse et dégradante. Les magistrats ne voient pas comment un tribunal pourrait imposer 100, 125, voire 150 ans d'emprisonnement à un Canadien, même s'il a commis plusieurs meurtres, alors que dans un cas comme celui-là, où je pense à celui de Robert Picton, dans les provinces de l'Ouest, si je ne m'abuse, tu demandes à au Canadien moyen, toi, ça te dérangerait-tu qu'on lui donne 125 ans de peine? Puis je pense qu'on est assez d'accord que nos sacs de sympathie sont relativement vides. Fait que, tu sais, au niveau judiciaire versus le niveau humain, on dirait qu'on n'est pas vraiment à même place là, dans ce genre de
moi,
dossier-là.
Moi, j'ai fait du droit. C'est sûr que donner 100 ans de prison à quelqu'un, c'est un peu ridicule. Mais je trouvais pas qu'on était si pire que ça en disant 40 ans de détention minimale. Les conservateurs ont voulu mettre beaucoup, beaucoup de peines minimales. Là, on a reculé là-dessus un peu.
Effectivement.
Mais 40 ans, j'ai pas trouvé ça absurde ou dégradant. T'sais, quand tu vas dans les peines ridicules de 100-150 ans, ben là, ça donne rien en plus.
Quand on va vivre cette étape-là, si on se rend, évidemment, on touche du bois, je suis curieux de voir combien de personnes qui vivent à Québec, même à Sainte-Foy, même dans le quartier où c'est arrivé, des gens avec qui il va falloir s'asseoir puis expliquer ce qui est arrivé. Parce qu'on dit devoir de mémoire, mais en même temps, on a tellement la faculté d'oublier.
Moi, je le sais, je serais peut-être plus journaliste, là, mais je le sais qui je vais aller voir. Là.
Ouais.
Les victimes, ils ont des enfants. Ben, c'est les autres qu'on va aller voir. Là.
C'est sûr. C'est sûr. Je veux dire, ça laisse des trous qui, pour eux autres... Eux autres n'ont plus la faculté d'oublier. Eux autres n'ont pas la faculté d'oublier. Nous autres... l'humain est fait de même, tu sais. Notre routine reprend. Moi, c'est l'affaire qui m'a frappé le plus le lendemain de l'attentat à la mosquée. Parce qu'en tant que journaliste, je m'étais tout le temps posé la question, Jeff, comment une ville se relève d'un événement comme celui-là? Puis tu vas à job dans ton char, puis tu regardes autour de toi, puis il n'y a rien qui a changé. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Tu sais, je me disais, une ville arrête de vivre quand il arrive quelque chose comme ça, mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'un extraterrestre débarque le lendemain, le lundi, puis si t'es pas dans le périmètre de sécurité, si t'écoutes pas la radio, si tu lis pas le journal, tu fais juste t'installer sur un coin de rue, tu te dis, ben il y a rien qui a changé, je veux dire, c'est la routine. Moi, ça m'avait marqué ça. Puis je me sentais coupable, dans une certaine mesure, de dire, hey, c'est un lundi comme un autre. Si j'écoute pas la radio, si j'ouvre pas le journal, si je vais pas me promener dans le coin de la mosquée à Sainte-Foy, c'est un lundi comme un autre, ça n'a pas de maudit bon sens.
C'était pas un lundi comme un autre. Je pense que tout le monde avait le deuil, tout le monde était vraiment secoué. Je pense que là, si tu parles du monde dans leur voiture, il y en a qui ne devaient pas se sentir bien non plus.
C'est sûr.
Si tu as toujours vécu à Québec, il faudrait comparer avec la fusillade de l'Assemblée nationale, mais c'est sûr que la ville ne peut pas arrêter de rouler. Non? Mais là, c'était vraiment un réveil brutal, là, horrible, puis on savait pas tout encore ce matin-là.
C'est vrai qu'on était encore en train de démêler bien des affaires.
Ouais.
Mais il va y avoir des conversations intéressantes, puis tu fais référence à Denis Lortie. Ça va faire partie des conversations qu'on va avoir dans le cadre des grands événements qu'on veut ramener un petit peu sur la scène publique puis la scène de l'actualité. À Boulevard 102.1, on va parler du Sommet des Amériques également. On va faire le tour de plusieurs de ces événements.
C'est Nicolet qui l'avait trouvé, Lortie. Hein? Je ne sais pas si tu en souviens.
Ah ouais.
Ben oui? travailler dans un dépanneur.
C'est vrai, donc, c'est vrai.
On prend des journalistes pour ça.
Ben non.
On est moins nombreux, mais on travaille encore.
Ben regarde, moi je me gênerais pas de vous lancer des fleurs. Je sais que c'est à la mode de blâmer les médias d'un paquet d'affaires. Moi je trouve que à Québec, les journalistes travaillent très fort. Je trouve qu'au municipal, je trouve qu'au niveau des bureaux d'enquête, je trouve qu'au niveau de ces histoires-là, les journalistes travaillent fort, puis les journalistes demeurent essentiels dans une communauté comme celle de Québec. Vous êtes du monde qui vivait ici comme nous autres, comme un paquet de gens. Puis c'est rendu à mode, hein? On va se le dire. Hein? Ah, les maudits médias, hein? C'est à cause d'eux autres si un tel est maire, puis c'est à cause d'eux autres s'il arrive telle chose, puis telle chose, puis telle chose.
Si on n'est plus là, les sources qui existent sont pires, je te le dirais. Celles qu'on trouve partout là, sur les réseaux sociaux, ils sont pas mieux, ils sont pires.
Souvent, c'est des narratifs qui sont faits sur mesure. Quand tu veux, mettons que tu as une théorie sur quelque chose, tu vas trouver une source journalistique, entre gros guillemets, qui va te dire exactement ce que tu veux. Mais c'est pas ça la réalité des faits, tu sais, de la réflexion. Hey, merci, Jeff. Merci.